Nous allons aujourd'hui rentrer de plein pied dans l'évangile de Jean. Et vous savez, tout au long de cette allée, nous allons voyager à travers cet évangile. Et quand on commence l'évangile de Jean, on fait face tout de suite à un sommet des Écritures. Le premier texte que nous rencontrons dans cet évangile est un des textes les plus majestueux de la parole de Dieu. Un des textes les plus importants des Écritures. C'est un texte qui nous amène dans la divinité et dans l'éternité. C'est un texte qui n'est peut-être pas toujours simple. On peut le dire, c'est un texte de théologie, mais c'est un texte qui pose d'une manière inébranlable la foi en notre Dieu. Et c'est vraiment avec un esprit d'adoration que j'ai travaillé depuis plusieurs jours sur ce message. Un esprit d'adoration parce que ce matin, c'est de Jésus dont je veux vous parler. Mais ce n'est pas simplement le Jésus de Nazareth, le Jésus de Galilée. C'est aussi et avant tout Jésus-Dieu. Et devant la divinité, devant la majesté de la divinité, on ne peut être qu'ému et confondu devant tant de puissance et de grâce. Je propose que nous commencions cette lecture. Nous lirons d'abord les premiers versets, du premier jusqu'au cinquième, et ensuite nous passerons au neuvième verset directement. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Alors elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Ce texte s'appelle le prologue de l'évangile de Jean. Et quand je lis ce texte, le mot qui me vient à l'esprit, c'est celui d'ouverture, comme l'ouverture d'un opéra. Une ouverture magistrale qui dresse le décor, qui met en place les personnages principaux. Et ce texte sert d'ouverture à tout l'évangile qui vient ensuite. Mais le thème central de cette lecture, c'est ce que, en grec, Jean appelle le logos, que nous avons traduit par la parole ou encore par le verbe. Et nous connaissons ce logos sous le nom de Jésus. Et dans ce texte, il est question des trois temps du logos. Nous allons d'abord voir qu'il est question du logos éternel. Deuxièmement, du logos créateur, et enfin, du logos rédempteur des hommes. Nous sommes donc au verset premier, et nous allons parler du logos éternel, et je le sais, la théologie n'est pas forcément votre tasse de thé, mais de grâce, accordez-moi ce matin quelques instants pour aller au-delà de cette aversion. Car rassurez-vous, nous sommes ici en présence du traité de théologie le plus court et en même temps le plus complet qui n'ait jamais été écrit. Un verset qui suffira largement à ce dont nous avons besoin en connaissance théologique. Un verset, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Surtout quand c'est Dieu qui inspire cette théologie. Nous avons de la chance, Jean n'est pas un théologien ou un philosophe grec, alors il ne va pas discuter pendant des heures de notions abstraites et absconses, mais ce qui va l'intéresser surtout, c'est de nous parler ensuite de ce que ce Logos va faire. Mais il veut quand même nous dire qui il est d'abord. Avant de nous dire ce qu'il fait, nous le présenter, c'est évidemment un minimum. Et en ce verset premier, en trois propositions, il pose les fondamentaux de la théologie chrétienne. Nous avons là trois propositions qui sont comme un objet d'orfèvrerie, qui nous donnent l'essentiel et qui vont nous garder de toute dérive. On a là le génie de l'inspiration de Dieu. La première de ces propositions, au commencement était la parole. C'est majestueux, n'est-ce pas? Deux choses. Tout d'abord, il est question de l'éternité, au commencement. Il y a quatre livres bibliques qui commencent par commencement. Bien sûr, le premier livre de la Bible, la Genèse. Au commencement, Dieu créa. C'est le commencement de la création. L'évangile de Marc débute aussi par ce mot commencement. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Il est question du début du ministère de Jésus. Et ensuite, il y a deux livres écrits par Jean l'apôtre, sa première épître et l'évangile de Jean, qui débutent tous les deux aussi par commencement. Mais de quel commencement est-il question avec Jean? Un commencement qui nous amène bien au-delà du début du ministère de Jésus sur cette terre. Un commencement qui nous amène même bien au-delà de la création elle-même et bien au-delà du temps. Un commencement qui nous amène jusque dans l'éternité auprès de Dieu. C'est vrai que réfléchir à ces choses nous donne rapidement le vertige. Mais ce que Jean nous dit, c'est que dans cet éternel commencement, avant le commencement, il y avait le Logos. Il y avait la parole. Pour Jean, il n'existe pas de temps, mais qu'est-ce que ça veut dire le temps dans l'éternité? Mais il n'existe pas de temps où le Logos n'aurait pas été. Ce qui veut dire que celui que nous appelons la parole n'a jamais été créé. Il est éternel. Il est incréé. Il s'autosuffit. Au commencement était la parole. Deuxième chose. La parole, le logos, ce n'est pas simplement une force, ce n'est pas un principe, c'est une personne. Le logos, la parole, était. Nous passons maintenant à la deuxième proposition. La parole était avec Dieu. Il est question maintenant de sa position. D'abord son éternité, deuxième sa personne, troisièmement sa position, sa relation avec Dieu. Le Logos avait une personnalité propre, mais le Logos n'existait pas sans Dieu. Il était indissociable de Dieu. Il n'y avait pas Dieu et le Logos, mais il y avait Dieu avec le Logos. Ce qui nous amène à comprendre aussi ceci. Il n'y avait pas Dieu et le Logos, il y avait Dieu avec le Logos. La parole n'était pas subordonnée à Dieu, elle était avec Dieu. Dernière proposition, le Logos était Dieu. Et par cette formule, Jean veut affirmer la pleine divinité du Logos, de la parole, de celui que nous appelons le Fils. Le Logos n'était pas un petit Dieu auprès de Dieu. Il n'était pas un sous-Dieu, un Dieu intermédiaire. Vous est-il arrivé de, d'avoir entre vos mains une Bible de témoins de Jéhovah et de lire dans ce verset, le Logos était Dieu, un Dieu avec un petit D majuscule, un petit D, excusez-moi. Notre Dieu n'est pas un petit Dieu. La parole n'est pas un petit Dieu. Elle est pleinement Dieu. Par sa nature, elle est Dieu.
Alléluia.
Dieu éternel, Dieu en personne, Dieu à côté de Dieu, Dieu en toutes choses. Avec ça, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir sur la personne du Fils. C'est pas mal quand même. En un verset, avoir toute la théologie suffisante et nécessaire pour s'appuyer solidement sur notre Seigneur. Après, c'est beaucoup de commentaires. Et ensuite, Jean va avancer. Je vous ai dit, Jean, c'est un juif, bien sûr, dans sa culture, et les juifs ne sont pas des philosophes. Les juifs aiment l'action. Quand ils parlent, c'est toujours par rapport à l'action. Leur pensée se fait par rapport à l'action. Et sitôt ce verset passé, au verset 3, Jean nous amène alors maintenant dans le véritable commencement, celui de la création, celui que nous comprenons mieux. Et là, il nous dit cette chose, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Il y a évidemment des parallèles, des ponts, des passages, tout ce que vous voulez entre ce texte et le texte de Genèse, chapitre 1er. Et de ces deux versets, 3 et 4, je voudrais retenir trois points. Il est question tout d'abord du faire, il est question ensuite de la vie, et il est question de la lumière. D'abord, le Logos, la parole, a amené toute chose à l'existence. Et nous croyons que tout ce qui existe n'est pas le fruit d'un improbable hasard ou d'une rencontre de force surgie d'on ne sait où, mais ce qui existe est le fait de Dieu, accompli par sa parole. Par le verbe « faire », il est question de tout ce qui existe. Ce qui est spirituel, parce qu'il existe une création spirituelle angélique, et ce qui est matériel, ce qui est vivant, ce qui est inerte, ce qui est visible, ce qui est invisible, ce qui est infiniment grand, ce qui est infiniment petit. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, mais qui existe, tient son origine de la parole. Dieu est celui qui a dit, et il est celui qui a fait, et il a accompli tout cela par le Logos. Dieu est créateur. Dieu est donc celui qui a fait. Mais Dieu n'est pas simplement un artisan capable de réaliser des objets. Dieu est celui qui communique deux autres choses importantes. D'abord la vie, et ensuite la lumière. Nous ne savons pas communiquer la vie aux choses que nous fabriquons, aux choses que nous faisons. Dieu, lui, donne la vie. Il a communiqué la vie à certaines de ses créatures. Il a communiqué la vie aux animaux. Il a communiqué particulièrement la vie aux hommes. Il n'a pas communiqué la vie aux minéraux. Et dans Genèse 2:7, nous disons que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Sans le souffle de Dieu, l'homme n'aurait été qu'un corps. Mais par le souffle de vie que Dieu lui a transmis, il est devenu un être vivant, et cette vie a été communiquée par la parole, car la vie se trouvait dans la parole. On s'interroge sur de savoir, mais quelle vie faut-il voir ici dans ce passage de Jean ? Il existe différentes formes de vie. Attention, je ne suis pas en train de parler de petits hommes verts. Mais autour de nous, il existe différentes formes de vie. Il y a la vie biologique. Et puis, il y a la vie consciente. Et la vie consciente est propre à l'homme. Je pense, donc, je suis. Nous arrivons à réfléchir sur nous-mêmes et sur notre vie. Et puis, il existe une autre vie, la vie éternelle, la vie spirituelle, celle qui appartient à Dieu et que Dieu communique exclusivement à ceux qui croient en lui. Alors certainement, dans le texte de Jean, on peut retrouver les trois vies, car de toute façon, quelle que soit la forme de vie, la vie est un don de Dieu. Et toute vie doit être respectée. À partir du moment où la vie est là, elle doit être protégée. La Bible dit que la vie est dans le sang. Mais il est évident que c'est particulièrement la vie nouvelle et la vie éternelle dont il est question dans ce passage. Alors, en tant qu'humains, nous existons parce que nous avons été créés. En tant qu'humains, à la différence des choses inertes, nous avons la vie biologique. En tant qu'humains, à la différence des animaux, nous avons la vie consciente. Et malgré tout cela, la Bible nous dit que sans la vie parfaite que Dieu veut nous donner, nous demeurons dans les ténèbres. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu lui a donné toute la vie. Il l'a créé, il lui a donné la vie biologique, il lui a donné la vie consciente, mais il lui a donné aussi la vie éternelle. Mais cette vie éternelle était conditionnée à une relation étroite avec Dieu, à une obéissance à la volonté de Dieu. Mais l'homme s'est rebellé contre la parole de Dieu, s'est détourné de Dieu. L'homme a péché et en péchant, il s'est séparé de Dieu. Et à cause de cela, les ténèbres sont venues et il a perdu cette vie éternelle que Dieu lui avait donnée au début. Mais vous savez, le cœur de Dieu pour ses créatures ne change pas. Ça va parce que nous sommes tombés dans les ténèbres que Dieu ne ferait comme si nous n'existons plus, qu'il je ne vous vois plus. Non, non. Dieu aime l'humanité. Et son désir, c'est de lui envoyer une lumière. Pour qu'en suivant cette lumière, il puisse revenir vers la vie. Et c'est pour ça que dans ce passage, il est aussi question de lumière. Cette vie, dit Jean, était la lumière des hommes. On dit souvent « pas de vie sans lumière ». C'est vrai qu'on a trouvé au fond, dans les abysses, quelques poissons tout à fait bizarroïdes qui arrivent à se développer, on sait comment. Apparemment, ils n'ont pas beaucoup de lumière pour se voir parce qu'ils sont assez moches. Cependant, Jean inverse ici les choses. Pour lui, la lumière vient avant la vie. Ce n'est pas la lumière et ensuite la vie. Mais c'est d'abord la vie et la lumière qui vient de la vie. Parce que pour Jean, la lumière, ce n'est pas simplement des photons et de l'énergie. La lumière, avant tout, exprime le désir de Dieu de s'approcher des hommes. Dieu est lumière. Et quand il s'approche des hommes, il vient pour les éclairer dans le but de les ramener dans sa vie. Et pour cela, il faut que nous quittions les ténèbres. Les ténèbres représentent tout ce qui n'est pas éclairé, ce qui existe, mais qui n'a pas la vie éternelle. La lumière de Dieu est venue pour briller partout, et pour éclairer les ténèbres, même si celle-ci cherche à l'étouffer, mais elle est venue surtout pour éclairer les hommes, afin de nous ramener auprès de Dieu. Jésus dit, Jean 8, 12, « Celui qui me suit, ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et cette lumière nous conduit donc au troisième temps de ce prologue. Le premier temps, la parole éternelle. Le deuxième temps, la parole créatrice. Troisième temps, la parole rédemptrice. Nous sommes dans les ténèbres, nous étant détournés de Dieu, mais Dieu, dans son amour, envoie sa lumière pour nous ramener dans la vie. Il vient pour nous racheter. Il faut que Dieu s'approche. Il faut que Dieu envoie sa lumière. Parce que les hommes ne peuvent accéder à Dieu Savez-vous où se trouve Dieu? Savez-vous quel chemin prendre? Bien sûr, vous me direz, mais il y a la parole. Oui, mais s'il n'y avait pas la parole. L'apôtre Paul nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu sait que nous ne pouvons pas venir à lui. Alors c'est lui qui est venu à nous. C'est lui qui a décidé de se dévoiler et donc de se révéler, c'est-à-dire de se communiquer aux hommes. Jean dit dans ce texte qu'il est venu, il est venu parmi les hommes. Jésus dit au début de son ministère dans les évangiles, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Est-ce que nous voyons dans ce passage des versets 10 à 14? C'est comment Dieu s'est révélé en trois temps aux hommes. Une révélation aurait été suffisante. Mais à cause de l'endurcissement des hommes, Dieu s'est révélé par trois fois, d'une manière progressive. La première, nous la trouvons au verset 10, c'est le premier temps de la révélation de Dieu aux hommes. Il est écrit qu'elle était dans le monde, la parole, la vie, la lumière, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Il est question ici de ce que nous appelons la révélation générale de Dieu à travers la création. L'apôtre Paul nous en parle dans Romains chapitre 1er, lorsqu'il nous dit que tout ce que nous voyons, les étoiles, les mers, les choses les plus grandes ou plus petites témoignent de la gloire et de la puissance de Dieu. Il est vrai que la création est muette. Elle ne nous dit pas qui est Dieu. Elle ne nous dit pas quelle est la volonté de Dieu. Mais elle nous en dit suffisamment pour que nous craignions Dieu. Et Paul nous dit que les hommes sont inexcusables de refuser de croire en Dieu devant l'étendue et la beauté de la création. Mais c'est vrai, dans un premier temps, les hommes n'ont pas voulu adorer le Créateur, ils ont préféré les créatures. Vous savez, les créatures ont un avantage, c'est qu'elles sont muettes. Dieu, lui, peut agir. Les créatures, on les domine. Dieu, on ne le domine pas. Aujourd'hui, on n'adore même plus les créatures. D'ailleurs, on a préféré aller jusqu'au bout de la réflexion, on a mis Dieu en dehors de la création. Il n'y a plus de créateur. Les choses se sont faites. Et ça nous arrange. Ça arrange l'humanité de dire qu'il n'y a plus de créateur. Parce que s'il n'y a plus de créateur, il n'y a donc plus personne à qui nous devons rendre compte. Et particulièrement, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Je l'ai déjà enseigné. C'est très clair dans l'histoire de la pensée de l'homme. La théorie de l'évolution, enfin la création, de l'apparition de la vie sans Dieu, s'est développée en même temps que toute la pensée sur la liberté sexuelle. S'il n'y a plus de compte à rendre, on est libre de faire ce qu'on veut. Et c'est pour ça que les gens ne veulent pas qu'on leur parle de créateur. Parce que s'il y a un créateur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Et il faudra peut-être lui rendre des comptes. Mais les hommes n'en ont pas voulu et de plus en plus les hommes s'enfoncent dans les ténèbres. Mais Dieu est persévérant parce qu'il nous aime. Alors Dieu, verset 11, a dit, mais on va faire quelque chose, on va faire un pas supplémentaire. Et il nous est dit qu'elle est venue, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Dieu, ça c'est la pensée des déistes, de Voltaire et des autres. Non, Dieu n'est pas simplement le créateur qui se serait ensuite débarrassé de la création, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a décidé de persévérer. Je veux leur envoyer la lumière, je veux les sortir des ténèbres, je veux leur donner la vie. Alors il est venu chez les siens, il s'est choisi un peuple, les siens, le peuple juif, les descendants d'Abraham. Et il leur a confié quelque chose d'extraordinaire que les autres peuples ne possèdent point. L'apôtre Paul nous dit ce sont les oracles de Dieu, les prophéties, la loi, les alliances. Dieu a confié cela au peuple juif. C'est ce qu'on appelle la révélation spéciale, les écrits, les textes prophétiques qui nous disent maintenant, alors que la création est muette, les textes prophétiques nous disent quel est le cœur de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Et les juifs savaient tout cela. Malheureusement, Jean dit ceci, ils ne l'ont point reçu. Et quand le Messie de Dieu est venu vers eux, lui qui accomplissait tout ce qui était écrit, ils n'ont pas voulu le reconnaître et ils l'ont rejeté. Mais Dieu est persévérant parce qu'il nous aime. Si les siens n'ont pas voulu de lui, il a quand même voulu encore nous bénir. Alors Dieu est allé plus loin. Il ne s'est pas contenté de créer, il ne s'est pas même contenté de parler. Il a dit, je vais venir au milieu d'eux. Et c'est ainsi que la parole éternelle, la parole créatrice, s'est faite chair. Pour paraître sur cette terre, tel que nous sommes nous-mêmes, comme un simple homme. Lui, la parole, Dieu est éternel, Dieu incréé, Dieu créateur, Dieu tout-puissant, Dieu vie, Dieu lumière. N'a pas regardé son égalité avec Dieu, n'a pas regardé sa nature de Dieu. Mais par amour pour la création, par amour pour Dieu, la parole a dit « j'irai vers eux ». Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, dit le Seigneur. Et il est venu vers nous. Jésus dit au début de l'évangile, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et il parlait de lui. Et plus tard, il dira même, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Comme Jean l'écrit, il était possible de l'entendre, il était possible de le voir, il était possible de le contempler, il était possible de le toucher, ce Jésus de Nazareth, le Dieu homme. Beaucoup l'ont vu, beaucoup l'ont méprisé. Le prophète l'avait écrit, « Qui a reconnu en lui le bras de l'Éternel ?» Mais tous ceux qui, avec humilité, avec crainte et espérance, ont tourné leur regard vers lui, alors même qu'ils souffraient sur le bois de la croix, ont vu une lumière, la lumière de la vie, la lumière de Dieu. Dieu est venu parmi les hommes, il est venu tel un simple homme pour nous servir. Pour nous donner une lumière, sa parole, qui nous montre un chemin pour nous amener à la vie. Le Fils de Dieu est venu avec cette puissance de la part de Dieu, de donner la vie à tous ceux qui croient en lui. Tous. Il n'est plus question simplement des siens. Il est question des siens, mais il est question aussi de tout homme, de toi, de moi. Il est venu pour nous éclairer et nous faire sortir de nos ténèbres. Ainsi, Dieu est le grand créateur, il est le grand faiseur. Il est bien plus, il est celui qui donne la vie, particulièrement aux hommes. Mais cette vie véritable, perdue dans le péché, Dieu veut nous la restituer. Et sa parole est une lumière pour nous ramener vers lui. Et son Fils est celui qui est la vie pour nous la donner. Pouvons bénir Dieu que ce que le Seigneur ne se soit jamais lassé. Une fois, deux fois, trois fois, il s'est révélé aux hommes. Ne s'est-il révélé que trois fois? Non, bien plus. Parce que je loue mon Créateur, que non seulement il se soit révélé aux hommes, mais qu'il se soit aussi révélé à moi. Parce que c'est là la volonté de Dieu de se révéler à chacun d'entre nous. De venir vers nous tels que nous sommes, dans nos ténèbres, pour faire briller sa lumière, afin de nous amener dans la vie. L'apôtre Jean écrit ceci au verset 18, nous ne l'avons pas lu de ce chapitre premier, il écrit ce merveilleux verset, je vais le lire tel qu'il se trouve en grec, peut-être dans vos versions c'est ainsi, dans d'autres versions c'est un peu atténué, c'est très dommage. Mais voilà ce que Jean écrit exactement. Personne n'a jamais vu Dieu, point virgule. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Je peux témoigner, comme beaucoup parmi nous, lorsque nous avons levé nos yeux et regardé vers ce Jésus, vers ce simple homme, nous avons découvert quelque chose de plus grand. Ceux de son époque disaient, n'est-il pas le Messie ? Et un autre a fini par dire, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est pour ça que je dis que ce message, c'est avant tout une prière d'adoration. Car nous sommes là, en présence, au contact de la divinité. La parole est Dieu. La parole est éternelle, elle est incréée. La parole n'est pas simplement une force, la parole est une personne. Elle n'est pas un Dieu avec un petit dé, mais elle est Dieu en Dieu, auprès de Dieu. La parole est créatrice et elle est source de toute vie, particulièrement de la vie éternelle. Et la parole est rédemptrice, elle est venue briller dans les ténèbres de l'humanité pour ramener les hommes vers Dieu. Aujourd'hui encore, Jésus est la lumière. Aujourd'hui encore, son évangile est la lampe que Dieu nous donne pour nous éclairer, afin de nous ramener dans la vie véritable. Je ne sais pas dans quelle situation, mon ami, mon frère, ma sœur, tu te trouves ce matin. Tu me diras au moins, j'existe. Oui, j'existe. J'existe. Vous savez, on dira que dans certaines situations, c'est déjà un miracle d'exister quand certains n'arrivent pas même à voir la lumière de la vie. Nous existons. Nous vivons. Nous avons la vie biologique. Nous avons la vie consciente. Et on me dira, mais vous savez, de cette vie, que voulez-vous que je vous dise, c'est ma vie. De mon emploi du temps, c'est mes soucis, ce sont mes factures. Est-ce que c'est ça la vie ? Évidemment, vu comme cela, pour certains, c'est la dépression à coup sûr. Mais Dieu ne nous a pas créés pour cela. Dieu ne nous a pas créés pour être une matière inerte, il ne nous a pas créés pour être une matière animale, il ne nous a pas même créés pour être un homme avec sa simple conscience. Il nous a créés pour vivre selon lui. Mais tant que nous n'avons pas sa vie, notre vie n'est qu'illusion, parce que nous sommes dans les ténèbres. Et là, peut-être, mon ami, tu me diras, oui, ça, les ténèbres, je connais. Les ténèbres de mes échecs, les ténèbres de mes difficultés familiales, les ténèbres de toutes les épreuves que je traverse, les ténèbres qui sont là, dans mon cœur, ces angoisses qui me saisissent. Et je voudrais te dire que Jésus brille. Jésus est la lumière. Jésus est celui qui est venu jusqu'à moi. Il s'est approché de moi. Il est venu pour briller dans ma vie, pour éclairer mes ténèbres. Et je rends grâce à mon Dieu de ce qu'il m'a tendu la main pour que je ne retourne pas dans mes ténèbres. Parce que le Seigneur le dit, lorsque les hommes sont éclairés, souvent ils veulent retourner dans les ténèbres parce que ce qu'ils voient ne leur plaît pas. Mais quand la lumière de Jésus vient dans nos vies pour éclairer nos vies, ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous accabler, ce n'est pas pour nous juger. C'est pour nous consoler, c'est pour nous guérir, c'est pour nous restaurer, c'est pour nous faire vivre. Dieu ne t'a pas créé pour les ténèbres. Dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu vives dans les ténèbres. Il veut te donner la vraie vie. Regarde ce qu'il en a coûté à celui qui s'appelle le Logos. Regarde! Regarde cet amour qu'il a manifesté pour chacun d'entre nous, lui qui siège de toute éternité sur le trône de Dieu, qui est Dieu en Dieu, a été cloué sur une croix à Golgotha, a supporté les clous, le fouet, le mépris, les crachats, le rejet, la haine, parce que Dieu nous aime et qu'il veut nous donner la vie. Le monde ne l'a pas connu. Et ce monde ne veut toujours pas le connaître. Il dit, nous ne voulons pas de lui, nous ne voulons pas l'entendre parler. Et ceux qui s'appellent les siens, des fois, ne le reçoivent même pas, encore aujourd'hui. mais à tous ceux qui croient. Et si tu crois aujourd'hui, celui qui s'appelle la vie a la puissance de te donner la vraie vie. Non pas par la volonté d'un homme, ni de la chair, ni du sang, mais par la volonté de Dieu. Et il veut ouvrir tes yeux ce matin. Et il veut te donner la vie. Voilà ce que Jean nous dit concernant celui que nous appelons le Fils, celui que nous aimons particulièrement sous le nom de Jésus. On va incliner nos fronts, s'il vous plaît, fermez nos yeux quelques instants. Oh, j'ai parlé, et vous savez, comme Jean-Baptiste, je suis qu'une lampe qui brille pour un instant. La véritable lumière, c'est Jésus. Mais ce que je sais, c'est que Jésus brille et qu'il veut briller dans vos vies. Ce matin, il est peut-être là pour t'éclairer, toi, parce que tu as besoin d'une lumière. Tu as besoin d'une lumière pour te conduire, tu as besoin d'une lumière pour éclairer toutes les ténèbres de ta vie. Dieu veut te faire vivre. Dieu veut te faire vivre. Ce matin, seras-tu de ceux qui vont reconnaître la lumière ? Seras-tu de ceux qui vont recevoir la lumière ? Ou alors rejoindras-tu le flot de ceux qui se détournent ? Mais Dieu t'invite à sortir des ténèbres. La lumière est là, la parole est là. La vie est pour toi. Et si dans ce que j'ai dit, mais bien plus, si dans ce que le Saint-Esprit peut dire à ton cœur en Saint-Estant, tu sens que Dieu te parle, alors je voudrais t'inviter à lever ta main pour dire, Seigneur, éclaire ma vie. Éclaire ma vie, Seigneur. Je vois des mains qui commencent à se lever. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur vient vous visiter dans vos ténèbres. Imagine, le Dieu créateur, le Dieu éternel s'approche de toi ce matin. Tu peux l'entendre, tu peux presque le toucher, il est là. Lui, il vient toucher ta vie. Et il te dit, suis-moi. Et il te dit, marche dans ma lumière, marche dans ma parole, et je te donnerai la vie. Dieu veut détruire les ténèbres qui t'entourent. Dieu veut te sortir de toutes ces ténèbres. Parce qu'il veut te donner la vraie vie. Alors ce matin, nous proclamons la victoire sur ces ténèbres. Nous proclamons la victoire sur l'échec. Nous proclamons la victoire sur le péché. Nous proclamons la victoire sur toute rébellion à l'égard de Dieu. Et nous disons maintenant que la lumière vient en toi et qu'elle t'éclaire tout entier. Ne la refuse pas, ne t'en détourne pas, car elle est la source de la vie. Elle est la puissance de la vie. Ce matin, reçois la vie de Jésus-Christ. Laisse-le venir en toi. Tout comme il est descendu du ciel sur la terre, aujourd'hui, il descend dans ta vie. Remplis ses vies, remplis ses cœurs. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, nous te prions. Amen. Amen et Amen.